La chronique environnement sur RTF 95.4, également sur internet rtflimoges.com.
Cette semaine, pour notre chronique environnement, je suis en compagnie d'Adeline Bedoc de la Ligue de protection des oiseaux du Limousin et nous allons aborder un thème pratique qui est celui qu'on devrait se poser pendant tout le printemps et tout l'été, c'est que faire en période de reproduction des oiseaux pour les protéger, pour les aider. Voilà, il y a plein de choses à faire, plein de choses qu'on ne sait pas, et pourtant c'est très utile. Alors Adeline, je suppose qu'il y a des oiseaux qui nichent sur mon terrain, dans mon jardin ou ailleurs. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ?
Alors on va peut-être faire tout d'abord un rappel à la loi sur ces périodes de reproduction. Donc les périodes sont du 16 mars au 15 août et il est très très important d'y faire attention parce qu'il y a une réglementation derrière cela. Ce sont des espèces qui peuvent être sensibles ou qu'il ne faut pas déranger ou tout simplement protéger. Donc il faut être bien au courant de cela au niveau de la loi. Par exemple, vous ne pouvez pas faire de la coupe de haie ou de la taille en cette période. C'est strictement interdit puisque vous allez porter atteinte aux espèces type nicheuses, donc dans le cas par exemple des hirondelles ou tout autre oiseau. Puisque si vous dérangez un nid, vous le déplacez, vous pouvez créer un abandon des petits, des œufs, ou tout simplement faire un terrain hostile à l'espèce qui peut décider de se déplacer et de ne pas revenir sur un site de reproduction.
Alors donc, de mars à septembre ?
Août.
À août, je laisse le taille-œillet et le sécateur
dans mon placard
et je ne touche pas à mes haies. Ça veut dire que si je veux intervenir, par exemple pour couper des arbres qui auraient poussé un peu trop haut, qui seraient gênants, ce n'est pas la bonne période. Il faut le faire en dehors, il faut le faire en hiver, en automne, au moment où les oiseaux ont quitté le nid en quelque sorte.
C'est en quelque sorte, c'est ça. Donc il faut le faire soit en amont, si vous voulez éviter par exemple, quand vous avez le cas d'espèces un peu plus coloniales, donc étourneaux-moineaux, si vous voulez éviter les dérangements des foies avec l'avifaune qu'il peut avoir sur la cohabitation, vous pouvez donc élaguer les branches par exemple d'un arbre avant ces périodes-là, mais pas pendant. Ou vous pouvez tout simplement, quand vous avez des nids, pour le cas par exemple d'une chouette qui va être présente dans votre grange ou les chouettes un peu plus haut au niveau des cheminées, vous ne pouvez pas enlever le nid qui est placé en haut des cheminées à cette période, strictement interdit. Donc si les petits font un brouhaha chaque nuit, malheureusement il faut prendre votre mal en patience et attendre que la période soit finie. Puis une fois fini, c'est très simple, vous déplacez le nid, vous mettez une grille par exemple sur vos cheminées pour bloquer chaque entrée, et le mieux aussi, puisqu'il faut compenser quelque part un petit peu le site que vous enlevez à l'espèce, vous placez un nicheur à chouette en dehors justement de la cheminée ou en dehors de votre grange.
Est-ce que je peux me faire entourer de conseils de la part de spécialistes si j'ai ce genre de problème ?
Alors oui, vous pouvez complètement nous appeler par téléphone ou nous écrire par mail, et vous pouvez également en fait vous rendre sur notre site lpo.fr ou le site de la LPO Limousin également, et retrouver des fiches techniques conseils qui va vous expliquer par espèce ce que vous pouvez faire, soit les solutions alternatives, soit quel nid adapter ou que faire justement si vous avez besoin de déplacer un nid ou si vous avez besoin de faire des travaux qui peuvent porter atteinte à l'espèce. Donc dans ces cas particuliers, si vous menez des travaux, un ravalement de façade tout bête, où des espèces peuvent nicher dans les trouées en fait de la façade, vous devez faire une demande spéciale, donc une dérogation, à la DREAL, donc qui est la structure gestionnaire à ce niveau-là. Il faut l'amener en amont, avant vos travaux, puisqu'on le rappelle, c'est strictement interdit de porter atteinte à l'avifaune.
Alors, il y a une autre problématique qu'on rencontre au moment de la reproduction, c'est nos amis les félins, nos adorables petits chats qui se baladent et qui adorent les oiseaux eux aussi. C'est un vrai problème.
Alors oui, effectivement, par chiffre, par exemple, donc on sait que sur les années 2020, les dégâts d'un chat, donc d'un chat domestique, va être estimé à peu près à 14%, voire plus, à l'échelle de la France entière. Donc ce qui est énorme en attaque de toute la petite faune, même en dehors de l'avifaune. Sur les oiseaux, ça représente dans ces 14%, 90% des oiseaux. Donc 10% autres mammifères, etc., 90% attaquent aux oiseaux. Et en période de reproduction, les attaques sont 10 fois plus fortes, tout simplement par le fait où les espèces sont plus visibles, plus stabilisées, puisqu'elles vont nicher, et que vous avez des fragiles, comme les juvéniles, les oisillons, qui ne vont pas bouger du nid. Le problème du chat domestique, c'est qu'il va prédater. Donc on apporte des conseils, des solutions alternatives, donc soit pour effaroucher le chat, soit pour prévenir tout simplement aussi les oiseaux de leur présence, type un collier aux couleurs assez vives, avec un grelot pour les prévenir de leur gestuelle.
Ça voudrait dire qu'entre le mois de mars et le mois d'août, je mets un collier avec un petit grelot à mon chat.
Oui, et vous pouvez le faire également toute l'année, puisque ça va également être des attaques qui se font réellement toute l'année.
À la mangeoire en hiver, par exemple.
Oui, à la mangeoire en hiver, ou tout simplement, quand vous avez des endroits un peu plus campagnards, les gens vont laisser leur chat s'en aller, donc ils peuvent aller également en forêt, là où il y a d'autres espèces qui vont s'y cacher pour ne pas être prédatées et qui vont se faire avoir. Donc le tout, c'est de rendre visibles vos chats, ou tout simplement d'éviter leur action, donc limiter, on parle de limiter la prédation du chat sur l'avifaune, par exemple, ou mettre des installations pour éviter qu'il grimpe à un arbre, donc tout simplement des grilles, des piquets qui ne vont pas lui permettre de s'accrocher.
Des obstacles,
C'est ça. On va également, on peut poser par exemple des bandes son. Vous avez des diffuseurs de son qui vont émettre soit des ondes, des vibrations, qui vont en fait éviter qu'un chat, même pour vous si vous ne voulez pas qu'un chat soit sur votre terrain, donc évitez par exemple les chats des voisins chez vous, vous pouvez mettre cette bande son là pour préserver votre jardin d'espèces qui viennent vous déranger.
Et donc ces informations là on peut les retrouver sur le site de la LPO également, je pense.
Également, vous avez même des petites formations sur YouTube qui sont faites, qui ont été faites avec des professionnels, donc des vétérinaires. Parce qu'on va souvent nous dire qu'on ne veut pas faire de mal à notre chat, ce qui est complètement normal, mais on ne veut pas non plus faire de mal à la petite faune. Donc vous avez tous les conseils faits par des professionnels pour trouver les deux solutions. Donc préserver la santé de votre chat et en même temps protéger la petite faune de cette prédation-là.
Donc c'est possible, mais il y a un certain nombre de choses, de bons gestes à faire pour que nos amis les chats ne fassent pas autant de dégâts parmi les oiseaux et les petits mammifères. Une autre question, si je trouve un petit oiseau, si je trouve un nid, un petit oiseau qui est tombé du nid, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en période de reproduction comme ça ?
Alors selon le niveau, on va dire, du cas, puisque un oisillon peut être un oisillon donc sans plumes, mais un oisillon peut aussi être un juvénile plumé, selon le cas, il va avoir différentes choses à faire. Si vraiment l'oiseau est tout petit ou même juvénile, le principal à faire, c'est d'essayer d'abord de le remettre dans le nid, si celui-là est accessible. Si celui-là il n'est pas accessible, vous pouvez essayer de construire un nid artificiel type un carton avec une ficelle suspendue à la branche de l'arbre si vous voyez que les parents sont toujours dans les alentours, pour proposer ce second nid où les parents vont continuer tout simplement à s'occuper du petit. Il y a un lien infaillible qui va lier les parents et les petits. Donc quand le juvénile n'est pas trop petit et bien plumé et il sautille, vous pouvez même le laisser au sol. Il ne faut pas le récupérer systématiquement.
D'accord.
Puisque les parents vont également s'en occuper même au sol. Dans le cas de certaines espèces, type les rapaces nocturnes, vous avez une partie de l'élevage et de l'éducation qui se fait au sol. Alors quand vous trouvez un petit duc, par exemple, donc un hibou, ou une petite chouette, il ne faut pas le ramasser. Puisque au contraire, en le ramassant et en le prélevant de son site, vous allez plus créer des dégâts qu'autre chose. En l'enlevant, vous enlevez les parents qui vont permettre l'alimentation et l'éducation, l'apprentissage du petit. Et vous allez également le retirer de son site. Donc il va falloir ensuite s'en occuper réellement.
Donc, comment être certain que l'oiseau que je vois au sol est encore en lien avec ses parents et n'a pas besoin d'être secouru ou amené dans un centre de soins ?
Tout simplement, un oisillon qui est au sol, forcément, le site, le nid n'est pas loin. Donc le mieux, c'est de le laisser, même un arbre à proximité. Vous pouvez le poser souvent, vous pouvez voir la visibilité des parents, soit voilà. Vous le voyez, soit tout simplement à l'écoute, on les entend qui crient, puisque quand vous êtes là, il peut avoir des signes d'alerte ou autre, donc vous pouvez les entendre. Si vous ne le voyez pas, si vous ne l'entendez pas, le mieux, c'est qu'un petit est toujours proche de son nid, donc c'est d'essayer... de le laisser, si vous voyez qu'au sol c'est pas forcément en sécurité, de le poser dans un arbre en hauteur. Le petit émettra forcément un son qui va appeler les parents.
Puis j'observe un peu et si je vois que les parents continuent de s'occuper de lui, je n'interviens plus. Et dans le cas, dans l'autre cas, celui où je me rends compte que les parents n'interviennent pas, que le petit est isolé et commence à dépérir, qu'est-ce que je peux faire?
Alors, dans le cas aussi où l'espèce peut même être tout simplement blessée, puisqu'une chute peut faire une blessure à l'aile ou une petite coupure, là, dans ce cas-là, il faut contacter un centre de soins qui a la capacité et les compétences agréées et donc une autorisation à manipuler la faune sauvage. Puisqu'on le rappelle, la détention quelconque, même si c'est pour de l'aide, c'est strictement interdit sur des espèces protégées ou même de toute faune. Donc il faut contacter SOS Faune Sauvage, qui est le centre de soins sur le Limousin, au 07 78 07 11 23, et qui ont les capacités justement à faire ces relayats pour récupérer la petite faune. En essayant d'adapter les premiers gestes dits juste avant, vous allez éviter justement aussi une surcharge de ces centres de soins qui sont largement débordés. Donc le but, c'est d'essayer d'abord de comprendre un individu dans son environnement avant de faire un faux geste et donc de récupérer et ramasser un jeune précocement.
Donc un petit coup d'œil sur le site de la Ligue de protection des oiseaux et on trouvera plein de conseils utiles avant de faire de mauvais gestes, si j'ose dire. Merci beaucoup Adeline pour toutes ces infos et à bientôt pour une autre chronique environnement sur RTF.
La chronique environnement sur RTF 95.4, également sur internet rtflimoges.com.